Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
C'est un plaisir de se retrouver là avec des têtes connues et puis des nouvelles aussi. À un moment où voilà, le gros colloque est passé, l'expo a ouvert et ma foi, je crois qu'elle satisfait globalement les gens qui viennent la voir, que ce soit des gens qui découvrent l'histoire du franquisme ou d'autres qui sont habitués à la connaître. Et aujourd'hui, donc, le plaisir est double puisque nous allons donner la parole et débattre avec nos partenaires et amis qui ont construit avec nous ce cycle. C'est important parce que c'est pas seulement une coopération scientifique entre la France et l'Espagne, c'est aussi une coopération institutionnelle, ce cycle. Donc c'est une coopération institutionnelle au niveau européen pour un cycle qui vise à expliquer au public français et j'espère plus tard au-delà, si on arrive à faire voyager l'expo, ce qu'a été cette dictature qui a duré 40 ans. Et ça a une importance particulière aujourd'hui et dans les espaces publics, dans les espaces politiques européens. Donc le fait qu'on ait une coopération entre institutions à un niveau européen, puisque entre la France et l'Espagne, c'est important. Au niveau institutionnel, une coopération variée, c'est-à-dire que c'est pas seulement le gouvernement espagnol à travers le secrétariat d'État à la mémoire démocratique, mais aussi les institutions qui pour nous sont régionales de notre point de vue et qui sont les communautés autonomes. Les deux institutions que représentent mes collègues ici présents, ils vont vous l'expliquer, dépendent des gouvernements de la communauté autonome de Catalogne, qui est la généralité de Catalogne, et de celle de Navarre. Et ce sont des institutions qui sont nées depuis, dans le cadre de ce mouvement de la mémoire qui, depuis 25 ans, parcourt l'Espagne et est un véritable mouvement social et politique profond qui s'est traduit par... alors, ce qu'on en sait en France, c'est bien sûr, on a eu des images des campagnes d'ouverture de fosses, etc. Et puis on a entendu parler des lois mémorielles. Donc il y a une première loi mémorielle en 2007, une deuxième en 2022. Et la première loi de mémoire historique, en tout cas c'est comme ça qu'elle est connue, la deuxième loi de mémoire démocratique. Mais ce qui est encore plus important, et c'est un échelon qu'on n'a pas l'habitude de considérer en France, c'est l'échelon des communautés autonomes, justement, qui est essentiel pour comprendre le travail de mémoire qui s'opère entre le mouvement associatif, qui est premier, d'une certaine manière, qui est à la base de tout, et les institutions qui accueillent, impulsent, encadrent, répondent, etc., et qui assument un certain nombre de devoirs et de missions publiques. Ces institutions de mémoire sont évidemment différentes suivant où est-ce qu'on se situe en Espagne. La Catalogne et la Navarre, à ce titre, sont les deux pays les plus dynamiques sur le plan du travail de la mémoire démocratique en Espagne. Le Mémorial démocratique de Catalogne est une des premières institutions, Jordi va vous l'expliquer, sur ce plan. Et du point de vue des activités, vous allez voir que c'est assez impressionnant, même quand on connaît un petit peu ces questions. Moi-même, j'ai été impressionné de voir la diversité et l'ambition des travaux qui sont menés. Donc je n'en dis pas plus. Je pense qu'après on aura un débat, notamment peut-être pour éclairer cette question sur laquelle nous avons en France beaucoup à apprendre, qui est la réflexion autour de l'expression mémoire démocratique. En France, on a été bercé depuis un certain nombre de décennies par une autre expression qui est celle du devoir de mémoire. Il y a eu, parce que maintenant c'est un peu dépassé, des débats très intéressants et très importants, notamment par, je crois que c'était le premier directeur de l'Institut du Mémorial démocratique, Ricard Viñas. Ah non, c'est non, il a, mais bon, il a été à l'origine de. Une, voilà, il a été celui qui, ouais, l'homme de l'ombre qui a inspiré cette institution, et cette idée de mémoire démocratique qui est présente dans la loi, la dernière loi, est vraiment importante. Son lien avec l'échelon territorial est lui aussi très important. C'est pas complètement un hasard si le secrétariat à la mémoire démocratique aujourd'hui a comme ministère de tutelle le ministère des territoires en Espagne. C'est, je pense, la reconnaissance de la part du gouvernement actuel de la force d'impulsion des territoires. Donc, sans plus de présentation, je vais donner la parole tout de suite à Jordi, et je les remercie tous les deux de leur travail pour ce cycle et de leur présence. Et je remercie aussi Madame Ruiz qui va interpréter en particulier Josémi, mais qui va nous aider pendant tout le débat. Merci beaucoup.
Bon, merci François. Je vais essayer de parler en français, mais. Je présente mes excuses si j'ai quelques problèmes avec les façons de m'exprimer. J'aurai l'aide aussi de Marie à mon côté. D'abord, je veux dire que je suis très ravi d'être ici et pouvoir collaborer la journée d'aujourd'hui dans le cadre de cette importante exposition qui a été faite ici au Musée de la Résistance et de la Déportation à Toulouse. Je pense que il s'agit d'une exposition très importante pour expliquer le franquisme en France, parce que, comme j'ai parlé quelquefois avec François et d'autres historiens français, je pense que le franquisme est encore un inconnu ici en France et peut-être aussi dans l'Espagne. Bon, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est essayer d'expliquer de quoi il s'agit le Mémorial démocratique. Cette institution qui a été créée en 2007 en Catalogne à partir d'une loi. En fait, il s'agit de la première loi qui a été approuvée dans l'État espagnol, la première loi de mémoire. C'est une loi du mois d'octobre 2007, et la loi de mémoire historique, comme elle se connaît populairement. La loi est d'État, la loi d'État espagnole, était le mois de décembre 2007. Bon, j'avance avec les documents que j'ai amenés avec moi. Et surtout, ce que je vais faire, c'est expliquer les fonctions du Mémorial démocratique. Et aussi, aussi je parlerai un peu des antécédents. Est-ce bien, des antécédents du Mémorial démocratique. Bon, alors, je parlerai de la création du Mémorial démocratique, la structure et fonction, le déploiement du Mémorial démocratique, après les réseaux des espaces de mémoire en Catalogne, l'éducation aussi, et je vais parler un peu à la fin de mon intervention des défis de l'avenir, hein, parce que je pense que nous avons beaucoup de défis encore pour que réellement notre politique de mémoire, notre politique publique de mémoire démocratique soit réellement efficace. En Catalogne, aussi, comme la reste de l'Espagne, on peut dire que l'intérêt pour la mémoire du franquisme et de la guerre civile et la Seconde République espagnol, on peut dire qu'il y a un apogée à la fin des années 90, on peut dire. Et surtout au début du siècle actuel, du siècle XXI. En Catalogne, il y a eu un programme très important, un programme qui a été qui a débuté à l'année 2000 avec un décret surtout pour pouvoir indemniser c'est bien aux personnes qui ont subi des privations de liberté ou qui ont été incarcérées pendant le franquisme pour des raisons politiques bien sûr. Ce programme a commencé autour de 1999-2000. La Generalitat, il s'agissait d'un programme impulsé pour la Generalitat de la Catalogne, le gouvernement autonomique. On a pensé peut-être que le nombre de personnes qui feraient des réclamations serait plus ou moins 3 000, entre 3 000 et 100 000. La surprise a été que il y a plus de presque 40 000 personnes qui ont fait des réclamations pour pouvoir être indemnisées à cause de leur privation de liberté pendant le franquisme. Bon, ça a été, je pense, un moment très, très important et surtout un moment de conscientisation civique autour de ce qui a représenté le franquisme. Après, aussi dans le cadre de cela qu'on a nommé comme le mouvement de la récupération de la mémoire historique, le mouvement de la récupération historique en Espagne, en général. En Catalogne, la différence a été, je pense, qu'il y avait des associations mémorielles historiques. Surtout, par exemple, l'amical de Mauthausen et d'autres camps, et aussi l'association de personnes qui ont été privées de liberté pendant le franquisme. Les deux sont des associations très, très fortes en Catalogne et surtout au début des siècles actuels. En 2002, surtout l'association de personnes qui ont été privées de liberté pendant le franquisme, de personnes incarcérées pendant le franquisme, ont impulsé un grand acte au Théâtre del Liceu, à Barcelona, pour demander à la Generalitat, au gouvernement autonomique. Le président, en ce moment, était encore Jordi Pujol. On peut dire, Jordi Pujol, comme vous savez, il s'agissait d'un politicien nationaliste conservateur, mais aussi il a été un oppositeur au franquisme. Lui, il a été incarcéré pendant un an, dans l'année 1960, je pense, si je me souviens bien. Bon. Mais on peut dire que le nationalisme conservateur catalan, comme aussi, par exemple, le socialisme espagnol pendant les années 80 et les années 90, ils ont passé la página, ils ont tourné la page à la mémoire de la guerre civile, la Seconde République et le franquisme. Et surtout, comme j'ai dit, le grand moment de récupération de la mémoire démocratique, ou de la mémoire en général, la mémoire historique, comme on disait populairement, a commencé surtout à la fin des années 90, surtout impulsé pour les petits enfants, les nietos, les petits enfants de la guerre civile. Après, ou depuis ce grand acte de théâtre théâtre de l'opéra à Barcelone, le théâtre du Liceu, il y a eu aussi un changement dans le gouvernement de la Generalitat. Un important changement. Finalement, après 23 ans de domaine nationaliste conservateur, est arrivé au gouvernement de la Catalogne un nouveau gouvernement de gauche, avec le Parti Socialiste Catalan, Esquerra Républicaine et les anciens, on peut dire, les héritiers du PSUC, le Parti Socialiste Unifié de la Catalogne, c'est-à-dire les anciens communistes. Et a été précisément ce petit parti, qui en ce moment s'appelle Initiative pour la Catalogne, c'est les héritiers des les post-communistes, on peut dire, qui ont impulsé la création de cet organisme qui s'appelle, encore maintenant, le Mémorial démocratique. Dans le contexte de cette demande, il y a eu la demande des associations mémorielles, aussi ce petit parti, on peut dire, post-communiste, ou qui s'appelle éco-socialiste, on peut dire, aussi, Initiative pour Catalogne, on a créé la situation idéale pour impulser la création de cet organisme et aussi pour impulser l'approbation d'une loi mémorielle, que finalement a été approuvée en 2007, comme j'ai dit avant, le 31 octobre de 2007, un peu avant de l'approbation de la loi de mémoire historique de l'Espagne. Le nom de la loi de mémoire historique de l'Espagne, c'est plus long, mais je ne me souviens pas exactement comme il était, mais c'était très long. Bon, aussi, il est ahí, on a fait un nouveau statut d'autonomie en Catalogne en 2006, on a approuvé un nouveau statut d'autonomie. Et dans ce nouveau statut, ça veut dire une sorte de constitution, on peut dire, il y a un article, l'article 54, qui souligne l'importance de travailler la mémoire, comme nous disons en Catalogne, démocratique. Ça veut dire la mémoire liée au lit de l'antifranquisme. Ici, je montre aussi une petite chronologie aussi. On a créé aussi un consortium d'espace de la bataille de l'Ebre en 2003, un consortium pour créer le musée mémorial de l'exil à la Jonquera, Après, on a créé une loi, finalement, en Catalogne. Je parle de loi strictement de la communauté catalane. Une loi pour la localisation et identification des personnes disparues pendant la guerre civile et la dictature de Franco. Aussi, on a commencé une politique de dignification de fausses communes. Mais ce que je vais faire une distinction sur les fausses communes. En Catalogne, la plupart des fausses communes qu'il y a sont de front de guerre. Ça veut dire des soldats disparus. En Catalogne, il n'existe pas, sont exceptionnelles, les fosses de répression franquiste. Il y a des fosses de répression franquiste, mais dans les cimetières provinciales, à Gironde, à Barcelone, à Tarragone, à Lleida, mais il n'y a pas de fossés dans des lieux, on peut dire, dans les forêts, dans les routes, non? En Catalogne, la plupart des fosses sont identifiées, les fosses de répression se trouvent dans les cimetières. Mais il y a beaucoup de disparus, mais surtout des soldats, la plupart républicains, mais aussi des soldats de l'armée rebelle, de l'armée franquiste. Après, on a continué avec la création de plusieurs lois, par exemple, l'ordre de création et de gestion des réseaux des espaces de mémoire qui sont liés au Mémorial démocratique. Aussi, une loi qui était surtout symbolique, parce que c'est la loi de réparation juridique des victimes de régime de Franco. C'est une loi catalane, surtout pour faire l'annulation, on peut dire, l'annulation de tous les processus juridiques illégaux qui sont commis pendant le franquisme. Finalement, en 2002, je pense qu'en Espagne, s'est approuvé la une importante loi, la loi de mémoire démocratique, avec le nom de mémoire démocratique finalement, ça veut dire ils ont adopté aussi, on peut dire, peut-être on peut dire que l'expérience catalane a eu une certaine influence pour que finalement soit considéré ce qu'on sait, no, de mémoire démocratique. Et maintenant, chez nous, en Catalogne, nous sommes en train de l'approbation d'une autre loi qui, une loi qui s'appelle aussi de mémoire démocratique de la Catalogne, qui c'est une loi qui fusionne, qui réunit toutes les lois qui existent maintenant en Catalogne. En Catalogne existent 3-4 lois partielles, on peut dire. Les lois de fosse, les lois du mémorial démocratique, la loi de réparation, et aussi l'ordre de création des espaces de mémoire. Bon, ici, vous avez un fragment de l'article D de la création du mémorial démocratique. Surtout, avec la création du mémorial démocratique, on insiste surtout à la reconnaissance, on peut dire, de l'expérience de lutte antifranquiste et surtout l'importance civique et la transcendance de cette expérience de lutte à faveur de la démocratie. Je vais un peu rapide, parce que c'est plus complexe. Bon, structure et fonction du mémorial démocratique. L'objet, c'est de développer des stratégies publiques de mémoire démocratique. La finalité, surtout, c'est faire connaître de façon rigoureuse et objective la période 1931, c'est-à-dire au moment de la proclamation de la République, de la Seconde République, jusqu'à le premier gouvernement autonomique en Catalogne, avec la récupération de la Généralitat de la Catalogne, après la mort de Franco et la transition à la démocratie. Et aussi, nous sommes très convaincus qu'il est très important de créer un lien avec le passé et le présent aussi. Ça veut dire favoriser la compréhension du présent, la compréhension historique du présent. La fonction, on peut dire qu'il y a plusieurs fonctions, mais surtout, on peut dire, des projets politiques de mémoire, commémorer, rendre hommage, promouvoir la recherche, diffuser le patrimoine historique mémoriel, aussi offrir un service d'information et documentation, surtout avec la création de bases de données, et proposer des activités de formation, organiser des expositions, et surtout aussi avoir un lien très étroit avec la citoyenneté, surtout avec les associations mémorielles. Le mémorial démocratique, ou mémorial démocratique, comme nous disons, pour la gouvernance du mémorial, il y a un conseil de direction qui est intégré pour plusieurs membres, quelqu'un pour désignation politique du gouvernement, et aussi pour désignation de les formations politiques qui ont des représentations dans le Parlement autonomique. Et aussi avec des représentations des associations mémorielles, surtout avec les présidents du conseil de participation des associations qui est intégré dans le mémorial. Et aussi, après, il y a un comité consultatif avec un représentant de toutes les universités publiques catalanes et aussi un conseil de participation avec les associations mémorielles. Ici, les choses que nous faisons, on peut dire. Exposition, programme, service éducatif, publication. Nous avons créé un centre de documentation et d'information, un réseau d'espaces de mémoire. Aussi, nous avons fait en 2007, 2008, 2009 et 2010 un répertoire, on peut dire une étude de la symbologie franquiste qui existait encore en Catalogne. En Catalogne, on peut dire que la symbologie franquiste a été presque toute éliminée, c'est correct, éliminée pendant la transition à la démocratie, dans les années 70, après la mort de Franco, mais encore il y a des vestiges de symbologie franquiste. Surtout il y a le grand monument à Tortosa, le grand monument dédié à la bataille de l'Ebro. Après, nous faisons aussi des relations internationales, bien sûr. Et aussi, nous avons un programme d'aide et subvention. Bon, ici, je montrerai quelques images d'expositions plus récentes, par exemple, que nous avons fait en 2023. Par exemple, ici, nous avons créé une liaison entre une expo dédiée à Robert Capa, avec les photos qu'il a fait dans les camps de, surtout dans les camps d'Argelès. C'est une expo que nous avons fait ensemble avec le mémorial du camp d'Argelès et les MUME, le musée mémorial de l'exil, la Jonquera. Et aussi nous avons créé un lien avec la problématique des réfugiés à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, par exemple. Maintenant, je vous montre ici une exposition que nous avons maintenant. C'est une exposition itinérante, c'est bien, dédiée justement à un écrivain, sociologue, aussi un personnage public très important qui a été Paco Candel. Je ne sais pas si vous le connaissez ou non, mais il a fait un portrait, on peut dire, en 1964. Il a écrit un livre qui s'appelait Les autres catalans, els altres catalans. C'est un livre très important parce que c'est un livre qui abordait la transformation plus grande qui a suivi la Catalogne dans la deuxième moitié du segle XX, l'émigration. La Catalogne a été traditionnellement une terre de... on peut dire d'arriver de nouvelles d'accueil, de populations, surtout du sud de l'Espagne, de régions qui ont subi d'une façon très dure la répression franquiste et aussi la post-guerre, la misère. Et plusieurs centaines de milliers de personnes de l'Andalousie, mais aussi d'autres régions de l'Espagne, ont émigré en Catalogne, et ça a supposé une grande transformation pour la Catalogne à tous les niveaux, et surtout cette immigration a influencé beaucoup, surtout pour la création de la résistance et l'opposition au franquisme. C'est un exemple de notre travail autour, par exemple, avec les programmes d'exposition. Aussi, nous organisons des colloques, par exemple, aussi nous avons une liaison très forte avec la mémoire de réfugiés en général, liée à la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Vous savez que dans le cas de ce important intellectuel judéo-allemand, Walter Benjamin, il est mort à Porvoo, dans la frontière. Alors, nous travaillons chaque année avec la Université de Gironde dans le cadre de la chaire Walter Benjamin, Mémoire et Exil. Nous organisons des colloques. Par exemple, nous avons organisé un colloque sur les exilés et les réfugiés dans l'époque contemporaine. Par exemple, nous aussi, dans le Mémorial de Madrid, nous impulsons aussi les programmes de colocation de... No, je ne sais pas si vous connaissez les... Llambordes, les adoquines, comment
les pavés.
Les pavés. Je ne sais pas si je connaissais ce programme lié au pavé qui s'appelle en allemand Stoppsteine. Ce sont des petits pavés dédiés à des personnes déportées dans les camps de concentration allemands. Maintenant, nous avons déjà placé en Catalogne 500 pavés. Bon, ici, vous avez quelques images liées à la commémoration, la réparation. Ici, dans cette fossa de la Pedrera, c'est l'espace la fosse commune plus importante qu'il y a en Catalogne. C'est à Barcelone, dans le cimetière de Montjuïc, et il y a 1700 personnes qui ont été fusillées pour la dictature franquiste, justement dans le camp de la Bota. C'est un espace où l'armée franquiste fusillait les oppositeurs, on peut dire, au franquisme. Aussi, je vous montre quelques images de notre centre de documentation et d'information. Aussi, nous avons créé une banque de mémoire avec plusieurs bases de données. Il y a une banque, surtout une banque de données de témoins audiovisuels. Aussi, nous avons des témoins audiovisuels liés à la guerre civile, la Seconde République, le franquisme et l'exil républicain et aussi la transition à la démocratie. Après, nous avons aussi un programme de subvention. Et ici, je vous montrerai aussi très rapidement le réseau des espaces de mémoire. Je pense que c'est une des choses que nous avons eu plus de succès, parce qu'avec le réseau des espaces de mémoire, nous avons une présence pour tous les territoires de la Catalogne. Avec, nous avons créé des itinéraires, des espaces balisés. Nous avons créé un label, une marque. No? Et nous avons commencé à travailler avec cette idée de créer le réseau d'espaces de mémoire en 2005, avant de la création du Mémorial de Martí, avec un plan pilote avec la Université de Lleida. Et finalement, tout le programme a été développé, déployé en 2008, 2009, 2010, avec, comme j'ai dit avant, avec la création d'une ordre de gestion du réseau des espaces. Bon, j'avance. Ici, vous avez quelques images, no, de notre image, no, de projection publique dans les territoires. Et nous avons aussi structuré le réseau avec de thématiques, no? De thématiques historiques et géographiques aussi, avec, selon la géographie aussi. Il y a les espaces, on peut dire, frontaliers liés à l'exil républicain, mais aussi à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Les espaces de la guerre civile, surtout situés dans les fronts du Segre et la montagne de Lleida. Aussi les espaces de la bataille de l'Ebre, des espaces de la Deuxième République, et plus ou moins ça a été la première, on peut dire, la première distribution que nous avons fait sur la possible distribution des espaces de mémoire. Maintenant, nous avons 168 espaces de mémoire, avec cette répartition thématique et territoire. Mais ce que je veux dire d'une façon autocritique, il s'agit d'une répartition, on peut dire, inégale. Il nous manque surtout travailler encore plus les espaces liés à l'élite antifranquiste et surtout au mouvement ouvrier et au mouvement de voisinage pendant les années, surtout 60 et 70, surtout dans l'ère de Barcelone et les alentours de Barcelone. Aussi, on a commencé à signaliser des fosses communes qu'il y a en Catalogne. Bon, ici, vous avez ici une carte des espaces de mémoire. Maintenant, nous nous trouvons dans une problématique importante, parce que nous sommes dans une situation de changement de siège. Et en ce moment, nous n'avons pas un siège, un centre opérationnel central, parce que nous avons eu un problème avec l'espace que nous avions à Barcelone, dans le centre de Barcelone. Et maintenant, en deux ans et demi, nous aurons un nouveau espace dans le centre de Barcelone, à côté, justement, de... Non, à côté, non, dans la place Saint-Jaume. Je ne sais pas si vous connaissez Barcelone. C'est à côté de la mairie, de l'hôtel de ville et le palais de la Généralitat. Après, il y a aussi des centres territoriaux de référence qui sont liés au Mémorial démocratique. Un des, peut-être vous le connaissez déjà, c'est le Musée Mémorial de l'Exil, à la Jonquera, dans la frontière, et aussi le centre d'interprétation 115 jours dédié à la bataille de l'Ebro. Bon, ici, des images de récupération de vestiges de la guerre civile en place, par exemple l'ancien village de Corbera d'Ebre, aussi d'autres espaces de référence, par exemple liés à l'aviation républicaine, à la prison musée de Sor. Sor, c'est un petit village dans la montagne de Lleida, à côté de la frontière. C'est une petite prison liée surtout à les réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale qui faisaient le chemin du nord au sud, c'est-à-dire par exemple des jeunes français qui fuyaient du nazisme, de réfugiés juifs qui fuyaient aussi du nazisme, ou par exemple des aviateurs alliés qui ont été, non sais comment se dit, derribados, qui ont été abattus leur appareil et qu'ils arrivaient à l'Espagne pour traiter d'être réintégré de nouveau dans les files des armées alliées en Grande-Bretagne. Bon, ici, quelques images, par exemple, c'était un espace de référence incroyable, je pense, et inconnu. C'est le fossat de la Pedrera à Barcelone. Il s'agit d'un espace qui justement a été dignifié en 1985. Quelquefois, nous oublions ça, non? Ça a été dignifié pendant en ce moment, il y avait dans le gouvernement de la Catalogne Jordi Pujol et dans la mairie de Barcelone, je ne sais pas si Pasqual Maragall, peut-être. O Narcís Serra, peut-être. Mais je pense que ça a été un moment très important. C'est la place où il y a aussi la tombe de Lluís Companys, le président de la Generalitat, qui a été fusillé. Bon, plus d'espace. Maintenant, un projet de futur. C'était le projet de créer un monument dédié aux personnes qui ont été fusillées pour le franquisme dans le camp de la Bota. Le camp de la Bota se trouve entre Barcelone et Sant Adrià de Besòs. C'est une ville aux alentours de Barcelone. Aussi, nous avons créé, surtout avec les MUME, avec le Musée Mémorial de l'Exil, des itinéraires, des parcours, surtout transfrontaliers, liés à l'exil républicain. Dans on peut dire, dans des zones qui sont très proches, géographiquement, surtout, par exemple, entre la Jonquera, Pertús, Argelès, Elna, Colliur, Portbou. Quelques publications, c'est le temps déjà? Sí, ya me, no me enrollo más. Et je vais à la fin de mon intervention. Par exemple, ici nous avons signalisé la dernière résidence de Manuel Azaña dans un petit village qui se trouve à la frontière, dans la province de Gégon, qui s'appelle la Bajol. Et aussi, pour nous, sont très importantes les connexions, comme j'ai dit, transfrontalières, surtout liées à l'exil, à la retraite républicaine et le chemin de l'exil. Après, nous avons aussi tout un programme d'éducation, de services éducatifs. Et surtout, le plus important, c'est la collaboration que nous avons et la coordination avec le département d'éducation de la Généralitat de Catalogne, parce que les contenus liés à la guerre au franquisme sont toujours un peu, ne sont pas très traités encore dans les, on peut dire dans la, l'enseignement, dans les programmes normal, non? De, aussi, nous faisons une convocatoire d'un prix de recherche pour des étudiants de baccalauréat dédiés à la mémoire aussi, à la mémoire évocative. Les défis de l'avenir. Comme j'ai dit avant, nous avons maintenant un problème avec les sièges sociaux du mémorial, mais si tout va bien, mais on ne sait jamais, parce que le grand problème du mémorial démocratique pendant 17 ans de distance a été surtout l'instabilité politique. L'instabilité politique, le changement de gouvernement dans la Catalogne, aussi le changement, on peut dire, administratif, de l'inscription au différents départements de la Généralitat. Par exemple, le mémorial démocratique a été inscrit d'abord dans le département de... c'est un peu... paradoxal, dans le département d'intérieur et relations institutionnelles, après dans le département de gouvernement, après dans le département d'extérieur, de relations extérieures. Et maintenant, je pense que nous sommes dans une dans la logique, dans une bonne logique, nous sommes inscrits dans le département de justice, droit et mémoire. Bon, je termine. Et je pense que nous devons aussi améliorer, surtout avec notre offre d'exposition, d'exposition itinérante, et surtout consacrer plus d'espace à la mémoire de l'antifranquisme, au lieu de l'antifranquisme pendant les dernières années 60 et les années... le début des années 70 et la transition à la démocratie. Et bon, aussi un des grands objectifs, non, que nous avons dans le futur, c'est comment arriver au public plus jeune, aux nouvelles générations. Je pense que c'est le défi de tous les centres de mémoire, non? Aujourd'hui, en France aussi. Bon, je les laisse ici et après on continue la discussion.
Merci beaucoup, Jordi.
Même audio? Une mémoire sonore?
Je vais passer tout de suite la parole à José Migaston pour l'Institut Navarrais de la mémoire.
Et bonsoir, merci à François Rodicho, merci à Marie, à Saoul, gracias a Framespa, à la Universidad Jean Jaurès, sobre todo al Museo de la Resistencia de la Deportación, por darnos la oportunidad para contar qué estamos haciendo en Navarra, una pequeña provincia del Estado español, desde hace 8 años. Je parle en français, parle en español.
Voilà, donc vous avez entendu les remerciements au Musée de la Résistance, à Framespa et à tous les organisateurs de donner cette opportunité de présenter ce que la Navarre, une toute petite province du nord de l'Espagne, fait en faveur de la mémoire démocratique et historique.
Bueno, antes de comenzar un poquito a contaros qué es lo que estamos haciendo, me gustaría señalaros que Navarra, en el año 1936, no tuvo un frente de guerra. Y, por lo tanto, a diferencia de lo que pasó en Cataluña y en otras partes de España, o del Estado español, en Navarra sí que tenemos fosas. Y tenemos, como veremos después, más de 250 fosas. Fosas que están en cunetas de carreteras, fosas que están dispersas por el monte, porque el franquismo hizo una cosa muy bien en el caso de Navarra, y fue ocultar a todas aquellas personas que había asesinado.
Donc, pour contextualiser un peu, la Navarre, c'est une province où il n'y a pas eu un front de guerre, à différence de la Catalogne, par exemple. Et nous, par contre, nous avons beaucoup de fosses communes. On a environ 250, et on les trouve un peu sur les bas-côtés des routes,
dans les bois, un peu partout. Et le franquisme a bien fait son travail d'essayer de les cacher.
Bueno, Navarra fue una provincia muy castigada. Podemos hablar de 3.000 personas asesinadas para una población muy pequeña, asesinadas vilmente. En el año 1975 muere Franco y prácticamente en ese momento, en 1976, 77, 78, surgen movimientos ciudadanos de las propias familias y de los propios pueblos para organizarse y recuperar los cuerpos de las personas que habían sido asesinadas. Es un proceso que se llama exhumaciones tempranas. Navarra, La Rioja y Extremadura, solamente en esos tres territorios.
La Navarre, c'est un territoire qui a été très durement frappé par la dictature, par les représailles. Et pour une toute petite population, on estime qu'il y a eu 3000 morts, ce qui est un pourcentage très élevé. Et très vite, on a eu, avec la Rioja et l'Extremadura, on a commencé à faire ce qu'on appelle des exhumations précoces. C'est les premières exhumations qu'on a fait. Et des corps, des personnes vilement assassinées.
A partir de 1980, probablemente con el golpe de Estado de Tejero, se paraliza el proceso de búsqueda y se reinicia otra vez a partir del año 2000. En esos momentos en Navarra surge un movimiento asociativo muy fuerte que es heredero de aquellos que habían buscado los cuerpos 20 años atrás y a partir de ahí se recupera, se intensifica lo que es la reivindicación en torno a la memoria. Se aprueba una ley en el Parlamento navarro de apoyo a las víctimas del franquismo y 10 años después, en el año 2013, se aprueba la Ley de Memoria Histórica de Navarra, que es la que en estos momentos está vigente.
Donc toutes ces exhumations précoces qui ont eu lieu après la mort de Franco, 75, 76, 77, etc., se sont un peu stoppées avec les putschs de Tejero dans l'année 81 et ont été reprises bien après, dans les années 2000 à peu près. Et c'est là qu'il y a eu une résurgence héritière des exhumations précoces. Et il y a les mouvements citoyens qui a commencé à demander des exhumations, qui a fait ressurgir un peu cette mémoire historique démocratique. Et en 2013, il y a eu la loi des mémoires historiques qui a été votée.
Bueno, à partir de l'année 2015, surge l'Institut Navarro de la Memoria. Y a partir de ese momento es cuando se intensifican las políticas públicas de memoria. Una memoria que se construye hacia una convivencia que sea respetuosa con los derechos humanos y que se estructura en torno a dos compromisos, a dos planos, a dos objetivos generales y a dos acuerdos programáticos que en España y en Navarra eran muy complicados. Por una parte, el deber de memoria que como sociedad democrática tenemos. Y por otra parte, el derecho que las víctimas tienen a la verdad, a la justicia y a la reparación. Trabajamos en dos planos, un plano individual y familiar, pero también un plano colectivo como sociedad, ya que debemos desarrollar un proyecto democrático.
Donc l'Institut Navarré de la Mémoire, l'INM, dont il est directeur, il a été créé dans ce cadre-là, dans l'année 2015, dans un contexte où on commençait aussi à avoir plus de politiques publiques pour la mémoire. Et il s'agissait là de recréer une cohabitation fondée sur les droits humains. Et il y avait deux axes principaux de travail, des objectifs qui étaient forts et fondamentaux, qui étaient les devoirs des mémoires historiques, mais aussi un droit de vérité et de réparation de tout ce qui avait été fait aux victimes. Et là, l'Institut donc, travaille sur deux plans différents, un plan individuel et un plan collectif.
Fruto de este proyecto, se han desarrollado en los últimos años tres acuerdos programáticos. Año 2015, 2019, 19-23 y del 23 al 27. en una provincia como Navarra, que hasta el 2013 había estado gobernada por la derecha, que no había hecho nada, absolutamente nada, por la memoria de las víctimas del franquismo. A partir del año 2015 se crea una estructura que tenéis ahí, con un departamento de memoria y convivencia, que en estos momentos la consejera de memoria y convivencia es vicepresidenta segunda del gobierno de Navarra, lo cual le confiere a la memoria un papel fundamental.
Donc à partir de ce moment-là, il y a eu trois accords qui ont été signés pour faire avancer ces questions-là. Un accord 2015-2019, 2019-2023, 2023-2027, dans la Navarra, qui est une province, une communauté aussi, autonome, et où jusqu'à 2013, rien n'avait été fait pour la mémoire, parce que ça avait été gouverné toujours par la droite. Et il y a eu un service des cohabitations qui s'est créé, vous l'avez là, et actuellement la présidente du département des mémoires et cohabitations est aussi la vice-présidente du gouvernement de la Navarre, ce qui donne beaucoup plus de force.
Bueno, el Instituto Navarro de la Memoria tiene una función por mandato legal, que es la coordinación de las políticas públicas de memoria. ¿Y esto qué significa? Significa que el Instituto es el encargado de la preservación del patrimonio de la memoria y es, por tanto, el encargado de recuperar todos aquellos documentos audiovisuales, escritos, que existen en torno a la memoria, de grabar testimonios de los familiares de las víctimas, luego os mostraré también algunos, y recuperar aquellos documentos audiovisuales que de época, sobre todo de las exhumaciones tempranas, existen. Pero también, atendiendo al derecho a la verdad, como veremos después, elaboramos y encargamos informes a universidades de Pamplona, de Navarra, pero también a otras universidades. Y por último nos encargamos de la divulgación de la memoria, tanto a la ciudadanía en general como a las nuevas generaciones en particular, porque tanto yo como mis compañeros somos docentes, somos profesores de secundaria, y por lo tanto, en la línea de lo que decía Jordi, las nuevas generaciones son las depositarias del conocimiento.
L'Institut Navarrais de la Mémoire a plusieurs fonctions. D'abord, il doit coordonner les politiques publiques autour de la mémoire. Et ça veut dire qu'ils sont aussi garants qu'ils doivent préserver tous les patrimoines qui constituent la mémoire. Et il s'agit par exemple des documents audiovisuels, des documents écrits. Ils font aussi des enregistrements des victimes et ils récupèrent aussi des documents de l'époque. En plus, l'Institut élabore et fait élaborer aux universités des rapports de tout ce qui a été commis. Il travaille en collaboration avec les universités. Et José Miguel, comme ses collègues, ils sont aussi professeurs dans des lycées, surtout dans l'enseignement secondaire, et il souligne bien l'importance de la transmission aux jeunes qui vont en quelque sorte recueillir les témoignages et garder la mémoire de ce qui s'est passé.
Trabajamos en 6 líneas estratégicas, esos son los ejes prioritarios. Por una parte, la localización y la identificación de los asesinados por el franquismo. Como os decía, y luego veréis el mapa de Navarra salpicado de multitud de puntitos, fueron más de 250 las fosas que ha habido. Por otro lado, estamos trabajando en el reconocimiento y reparación de las víctimas y organizamos diferentes actos. Trabajamos en un proyecto educativo que se llama École avec mémoire, Escuelas con Memoria. Trabajamos en la divulgación de la memoria, en la identificación de los lugares de memoria y de los espacios de memoria, y por último también en la retirada de la simbología franquista. Estos serían los 6 ejes.
Oui, il y a 6 axes principaux de travail. Donc d'abord, il s'agit de trouver, identifier les corps des assassinés et de toutes les personnes disparues. Après, on va voir une carte où on voit bien les 250 fosses présentes en Navarre. Le deuxième axe de travail, c'est un travail de reconnaissance et de réparation pour les victimes et, ses et leurs familles. Il y a un projet aussi qui est très intéressant qui s'appelle Escuelas con Memoria, qui est fait dans les lycées et dans les collèges. Et le quatrième axe de travail serait la transmission et la divulgation de ces mémoires qui ne doivent pas se perdre. Le cinquième, l'identification et la protection de ces lieux de mémoire. Et après, il y a un sixième axe qui est très intéressant aussi, c'est de retirer toute la symbolique franquiste qui est partout en Espagne pour démocratiser l'espace public.
Bueno, dentro del primer eje prioritario, desde el año 2015-2016 tenemos un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Es una sociedad que tiene su sede en San Sebastián, en Donosti, en el País Vasco, y que en estos momentos está en el Valle de Cuelgamuros, exhumando los restos. Paco Echeverría, Lourdes Errasti son las personas que están al frente y llevan trabajando con nosotros desde hace ya pues 8 años. Tenemos un convenio de 100.000 euros anuales que aprueba el Parlamento de Navarra y esto ha permitido, por daros algunos datos, la recuperación de 154 cuerpos en estos 8 años, fruto de 32 exhumaciones, pero también de 111 prospecciones que han sido fallidas, porque no siempre es fácil. Y al mismo tiempo, estos desaparecidos, estos restos que se inhuman en el panteón del cementerio de Pamplona, también son cotejados con las muestras que tenemos en el banco de ADN, que tenemos en la empresa pública Nasertic, y que nos ha permitido identificar en estos 8 años a 41 personas, fruto de los 378 expedientes que hemos abierto.
Depuis 2015, on travaille avec Aranzadi, on le voit là, qui est une société scientifique qui est basée dans le Pays Basque. Nous travaillons avec Aranzadi depuis 8 ans maintenant. Nous avons un budget annuel de 5 000 euros. Et grâce à ces projets, nous avons pu exhumer 154 corps dans 32 exhumations réalisées. Mais il faut prendre en compte aussi qu'il y a eu 111 exhumations qui n'ont rien donné. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de... on n'a pas toujours les résultats espérés. Et nous avons aussi une banque de ADN qui nous permet de comparer les restes d'ADN et qui nous a permis aussi d'identifier plusieurs corps. Et pour cela, nous travaillons avec une entreprise publique qui s'appelle Nasertic.
Bueno, la photographie que veis en la imagen es una fotografía del cementerio de las Botellas. Es un cementerio que se construye al lado del fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezcaba, en Pamplona. A diferencia de las fosas que salpican Navarra, este cuerpo tiene una botella entre sus piernas. Y en esa botella se puso el nombre y la dirección del preso que había muerto por tuberculosis o por malas condiciones en el cementerio. No es lo habitual, obviamente.
Y en la foto que on voit là, elle est prise dans un cimetière qu'on appelle le cimetière des bouteilles, qui est à côté du fort de San Cristóbal, dans les monts Ezcaba. Et dans ce corps, on voit qu'il y a une bouteille entre les jambes. Dans ces cas-là, on avait mis dans cette bouteille les noms et l'identité de la personne morte, ce qui n'est pas l'habituel, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on l'appelle le cimetière des bouteilles.
El siguiente, el eje prioritario de trabajo son los reconocimientos y la reparación a través de diferentes homenajes. Comenzamos en octubre del 2015, nada más tomar posesión el gobierno, con un homenaje a los funcionarios públicos que habían sido asesinados fruto del golpe de Estado. Eran 33 empleados de la Diputación. Al año siguiente organizamos en septiembre un homenaje a los 33 maestros y una maestra que fueron asesinados y a los más de 300 maestros que fueron represaliados y que perdieron sus puestos de trabajo. En septiembre del 2017 y en abril de este año hemos hecho sendos homenajes a los más de 450 navarros y navarras que estuvieron en el campo de Gurs, en el Bear, después de haber pasado por Argelés, por Barcarés, por Adde, por otros muchos sitios, y hemos colocado pues una pequeña escultura y un mapa con todos sus nombres.
Un axe de travail donc c'est la reconnaissance et la réparation aux victimes et aux familles des victimes. Nous avons commencé en 2015 par rendre hommage aux fonctionnaires publics, aux 33 personnes qui ont été assassinées lors du putsch militaire. On a continué en 2016 par rendre hommage aux 33 professeurs qui ont été assassinés aussi et aux 300 autres professeurs qui ont subi des représailles. Et nous avons fait deux autres hommages en 2017 et cette année en 2024 pour rendre hommage à tous les Navarres qui ont passé par les camps de concentration des Gourcs dans les Béarn, mais qui, avant d'arriver là, étaient passés par Barcarès, Argelès, etc.
Un campo de Gurs que se llamaba el Campo Vasco, porque allí fue donde primero fueron los vascos que habían estado en otros campos. En el año 18 hicimos un homenaje a las familias que habían participado en la recuperación de los cuerpos de sus familiares. En ese mismo año, hicimos otro en el cementerio de Torrero, en Zaragoza, a los familiares y a las personas que habían sido asesinadas en el Tercio de Sanjurjo. Y en el año 21 hicimos un homenaje al exilio en un pueblo navarro que se llama Elizondo, en el Baztán, justo al lado del camino de Bearzun, que es un camino que tomaban las redes de solidaridad una vez que los refugiados se paraban en la fonda de la Vitoria Echeverría, que era una mujer de Baztán, y que por la noche iban caminando para buscar esa comunión con las estrellas para escaparse y alcanzar la libertad, la liberté.
Nous avons continué en 2018 avec deux autres hommages. Et donc le premier aux familles et aux victimes et de tous ces corps exhumés. Et en octobre 2018 aussi, pour rendre hommage à tous ceux qui avaient été fusillés dans les Tercios de Sanjurjo. Et en 2021, nous avons rendu hommage à l'exil républicain navarre et à toutes les raids, les réseaux des solidarités. C'est un territoire en Espagne qui s'appelle le Baztán. Et c'est là qu'on s'arrêtait un peu avant de reprendre chemin la nuit. Sous la protección de esa toile por continuar a marchar y atender la libertad.
Bueno, tal y como decía Jordi también, en Navarra en los años 75-78 se eliminaron muchos símbolos franquistas, pero todavía quedaban unos cuantos. Y a partir del año 2015 hicimos un censo de simbología franquista que permitió detectar casi 400 símbolos en las calles navarras. Todos ellos se han quitado, casi todos, porque aún queda alguno, y se mostraron en una exposición que se llamaba Deconstruyendo el franquismo, que se colocó en el paseo más céntrico de Pamplona, y todo el mundo pudo ver los símbolos, dónde estaban y dónde se habían quitado.
Como en Cataluña, en los años 75-78, on a déjà commencé a enlever beaucoup de symboles. Des symboles du franquisme qu'il y avait dans les espaces publics. Mais en 2015, il y a eu vraiment un mouvement fort dans ce sens-là. Et on a commencé à faire une liste pour tous les recueillir. On a trouvé qu'il y en avait encore 400 qui restaient. Aujourd'hui, ils sont presque tous, mais pas tous, enlevés. Et avec tous ceux qu'on avait enlevés, on avait fait une exposition et qui s'appelait Déconstruction du franquisme et qui avait été exhibée, qui avait été montée dans un point très central de Pamplona.
En el año 2018, el Gobierno de Navarra, el Parlamento de Navarra, aprobó una ley, la Ley Foral 29/2018, la Ley Autonómica 29/2018, que permitía proteger los lugares de memoria. Lugares de memoria que eran fosas, lugares de detención, trabajos forzados, esclavitud durante el franquismo, y los memoriales que habían construido las familias. La ley nos mandataba a protegerlos, a preservarlos, a señalizarlos y a darlos a conocer a toda la ciudadanía y a las nuevas generaciones.
En 2018, le gouvernement de la Navarre a approuvé une nouvelle loi pour protéger les espaces de mémoire. Les espaces de mémoire, on comprend les fosses communes, les prisons et les lieux de détention, et les lieux des travaux forcés aussi, et tous les endroits où les familles et les citoyens avaient créé un mémorial, en quelque sorte. Donc nous, notre mission à l'Institut de la Navarre, c'est de protéger ces lieux-là, et aussi de les diffuser. On a un rôle de diffusión dans la société.
Bueno, ahí tenéis fotografías. Hay una M, memorial, fosa, subtierra. Dos M's que están contrapuestas, que están enfrentadas. El memorial, la memoria, y las fosas o las víctimas que han muerto. Hay un tótem donde está la bandera republicana con un chistu, música navarra, homenaje a las víctimas de esa fosa. Encima hay un monumento en la carretera de Igal, en el norte de Navarra, en recuerdo de los trabajadores forzados, de quienes construyeron la carretera. Y en la parte superior de las fotografías aparece una señal en carretera. Entonces, cuando circuléis por Navarra, encontraréis grandes carteles, enormes carteles, como esto de grandes, donde aparecerá esa M y os señalará dónde tenéis que ir para recuperar la memoria de las víctimas.
Bon, donc ici, dans les photos, on voit à plusieurs endroits des mémoires. Nous voyons un monolithe, un totem. Vous voyez aussi les logos du M comme mémorial et après les M inversés qui représenteraient les fosses. Nous avons tout en bas un tistou qui est de la musique typique de la Navarre. Et vous avez aussi une route avec un panneau très très grand qui marque les endroits, qui balise les endroits où il y a des endroits de mémoire préservés. Donc si jamais vous allez à Navarre, vous savez comment les reconnaître.
Bueno, y ¿cuántos lugares de memoria hay en Navarra? Oficiales, en estos momentos hay 25. Van Senk. Los espacios de memoria que hay en Navarra, que aparecen en esta página y que se puede pinchar, son casi 300 lugares, espacios de memoria. ¿Y por qué? Pues porque Navarra decidió que tenía que haber 30 lugares de memoria emblemáticos, acompañados de otros muchos espacios de memoria que le diesen cuerpo. Y por eso aquí tenemos una barra que pone espacios de memoria, espais de mémoire, itinerarios, es decir, rutas. Aparece frontière en béton, las rutas de fronteras de hormigón, que nos recorren el Pirineo navarro buscando los búnkeres que construyó Franco para intentar contener el avance de los aliados o de los guerrilleros que estaban en Toulouse o que estaban en la frontière, dans la frontière.
Combien de lieux de mémoire il y a en Navarre? Officiellement, il y en a 25. Mais extra-officiellement, il y en a beaucoup plus. On recense 300. Et si vous allez visiter ce site-là, que vous pouvez cliquer, on peut tous les voir. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des espaces, à proprement parler, des lieux, mais il y a aussi des routes. Et il y a aussi des routes frontalières où Franco avait construit les bunkers pour essayer d'arrêter l'avancement soit des guerrilleros, ou des ennemis.
Vale, y dentro de este programa de políticas públicas de memoria, a mí personalmente el que más me gusta es el de Escuelas con Memoria. Escuelas con Memoria que trabajan en los institutos, pero que también trabajan fuera de los institutos, fuera de los liceos. Y en este caso tenéis un programa que se llama Jóvenes con Memoria, que se centra en los campos de voluntariado juvenil que trabajan durante los veranos, limpiando búnkeres, limpiando el cementerio de las botellas y construyendo un barracón que albergó una copia, un barracón que albergó a 600 trabajadores andaluces que estuvieron trabajando durante los inviernos, con el frío que podéis imaginar que pasaron, en el norte de Navarra, en los Pirineos. Este barracón se levantó desde el suelo, luego lo veremos ya levantado, con uno de los presos hablando allí.
Sans doute l'un de mes programmes préférés, c'est un programme qui s'appelle École avec mémoire, qui est destiné aux élèves du secondaire, surtout, de l'éducation secondaire. On a aussi une partie qui se déroule pendant les étés où on fait des camps des jeunes bénévoles qui viennent nettoyer une partie de ces lieux de mémoire. Et là, on voit les cimetières des bouteilles dont on a parlé tout à l'heure. On voit des bunkers qui sont nettoyés par les jeunes aussi, à la frontière. Et on voit une espèce de baraque où 600 prisonniers andalous avaient été retenus dans des conditions très, très précaires, dans le nord de la Navarre, dans les Pyrénées, avec tous les froids et les conditions difficiles que vous pouvez imaginer.
Bueno, el programa de Escuelas con Memoria, École avec Mémoire, lo digo bien, participan en torno a 50 centros educativos navarros. Puede haber en torno a 180, 200 docentes de Navarra y pueden participar en torno a 7.000, 8.000, 10.000 alumnos y alumnas todos los años. Esa fotografía está sacada en la fosa de Burutain, que está cerca de Pamplona, donde se recuperaron 6 cuerpos. 6 cuerpos, ahí veis a la Sociedad de Ciencias Aranzadi trabajando, y al fondo veis a un grupo de chicos y de chicas que han ido a visitar la fosa y que han podido dialogar con los familiares de las víctimas, con los técnicos, con las asociaciones de memoria histórica, en una transmisión de memoria en toda regla.
Donc dans ce programme d'école avec mémoire, il y a environ une cinquantaine de centres éducatifs qui participent, 180 enseignants et les élèves qui vont de 7000 à 10000. Et dans la photo qu'on voit là, c'est dans une ville qui s'appelle Brutain, et dans la Navarre, et on voit l'association dont on a parlé tout à l'heure, Aranzadi, qui sont en train de travailler et d'exhumer et de faire des fouilles. Et tout autour, on voit les élèves qui font une visite à l'endroit et qui ont pu dialoguer avec les familles et avec les techniciens qui travaillent sur site dans cette volonté de dialogue et de transmission aux jeunes.
Nuestros jóvenes pueden recorrer el Pirineo en las botellas de la libertad, siguiendo el paso de Jovino Fernández, que se escapó de la fuga de San Cristóbal, que fue uno de los 3 que sobrevivieron. 206 fueron masacrados en el monte, 14 ejecutados y el resto los volvieron a traer al fuerte. Pero también pueden encontrarse con víctimas o familiares y hablar con ellos en Sartaguda, que es el parque memorial al sur de Europa más importante. Pueden visitar exhumaciones, lo tenéis en el centro. Pero también desarrollamos proyectos artísticos en torno a la memoria y tenemos un programa muy interesante que se llama Teatro con Memoria, donde los grupos de teatro van a los centros educativos y tras la función hay un diálogo con los actores y las actrices.
Donc ici, ce qu'on voit, c'est 5 types d'activités différents qui sont faites dans les programmes École avec mémoire. Donc il y a une route, un circuit qui est fait qui s'appelle Botellas de Libertad, où les jeunes parcourent une partie d'un circuit balisé. Après, il y a aussi des moments, des rencontres où les jeunes peuvent discuter avec les familles dans un dialogue intergénérationnel. Ils peuvent, comme on l'a vu, visiter des exhumations et des fouilles. Ils participent à des projets artistiques pour la transmission de la mémoire. Et il y a un projet théâtral aussi où les théâtres se déplacent dans les centres éducatifs.
En el año 2022 hicimos un congreso en Pamplona, Historia con Memoria en la Educación. Este año 2024 habrá un segundo congreso. Participaron 450 personas y nos dimos cuenta de que es posible crear espacios de discusión donde los docentes, donde las docentes expongan sus proyectos de trabajo en los centros educativos. Así que animaros, si hay algún docente, à que présente son projet.
En 2022, nous avons fait un premier congrès international où nous avons accueilli 450 personnes. Cette année, nous allons faire un autre. Et lors du premier, nous avons pu constater qu'on peut faire, on peut ouvrir des espaces où les enseignants viennent exposer leurs projets de mémoire et de transition. Donc si ici, dans la salle, dans l'auditoire, il n'y a jamais des enseignants français qui veulent participer, sachez que là, on a une occasion pour le faire.
Bueno, y por ir acabando, porque creo que no tenemos mucho tiempo, tenemos un centro de documentación, y dentro de este centro de documentación me gustaría detenerme en esta interfaz. Se llama Oroibidea. Camino de memoria. ¿Se puede pinchar? Ahí tenéis, yo creo que la tenéis en francés, sí. Bueno, el archivo digital.
Donc ici on va parler du centre de documentation de l'institut et on va essayer de cliquer sur un lien qui est disponible en français aussi. On va voir si on y arrive.
Bueno, es un archivo digital que tiene 15 fondos documentales. Es un archivo digital que os invito a que esta noche cuando vayáis a casa lo juguéis con él, porque estamos hablando de un archivo digital de 23.000 víctimas navarras, tanto los que fueron asesinados en Navarra como todas aquellas personas que sufrieron la represión en Navarra. Es un archivo, Oroibidea, Camino de Memoria, que habla de 15 proyectos de recuperación de documentación, que ha recogido 356 entrevistas y que muestra casi 3.000 fragmentos de esas entrevistas, que están asociados a los hechos represivos y a las víctimas del franquismo. Aparecen también 9 mapas temáticos, 9 cartes temáticas, de diferentes espacios, y aparecen varias exposiciones online que son las que se utilizan en los centros educativos. 23.000 víctimas, documentos, fotografías, audiovisuales, fragmentos de entrevista, toda la documentación que sobre ellos hay está en este registro unificado de víctimas de Navarra y está además online, es decir, que cualquier persona en casa lo puede ver.
Donc on peut pas le, on a essayé de le voir mais on n'a pas réussi. Je vous invite à visiter le site ce soir si vous avez l'occasion et la curiosité. Ça s'appelle Oroibidea, chemin de mémoire. C'est un archive numérique qui recense 23 000 victimes du franquisme en Navarre. Des victimes soit assassinées, soit victimes des représailles. Ici, on a des photos, on a des cartes, on a des enregistrements sur 23 000 victimes.
Ese es el mapa de Navarra. ¿Veis las chinchetas que existen sobre él? Todo el mapa está salpicado de fosas.
tú.
Donc ici on a la carte de la Navarre et vous voyez tous les points partout. Comment ils sont nombreux, ce sont des fosses.
Bueno, ahí tenéis, y acabo ya, François, lo prometo, diferentes jornadas que organizamos, diferentes exposiciones, Gerardo Lizarraga, un pintor que estuvo en los campos de concentración, Fronteras de hormigón, Ezcaba, publicaciones que hemos hecho a lo largo de estos años. Y luego una cosita solamente. Trabajamos en torno a proyectos. Este es el proyecto Exilio. En torno a este proyecto hemos ido organizando todas las actividades. Homenajes, escuelas con memoria, lugares de memoria, investigación, exhumaciones. Es decir, todo lo que es los ejes prioritarios de trabajo están en torno a un eje temático. En este caso es el exilio. En otros momentos ha sido las fronteras de hormigón. En otros han sido las exhumaciones tempranas. En otros han sido otros ejes temáticos.
Donc nous travaillons autour des projets qui articulent un peu toutes les thématiques qu'on a vues tout au long de cette présentation. Les écoles avec mémoire, les exhumations, etc. Dans ces moments, le sujet central qui articule tous les autres, c'est l'exil. Mais avant il y avait eu d'autres comme les frontières des bétons ou les exhumations précoces dont nous avons aussi parlé.
Merci eskerrik asko en euskera y hasta que queráis, François, Marie.
Merci beaucoup.
Même audio, une mémoire sonore.
Merci beaucoup à tous les deux. On va faire tourner la circuler la parole dans le public. J'aimerais juste souligner l'impressionnante richesse du travail qu'on a vu à deux échelles différentes, hein, l'échelle de quatre provinces. Catalogne, c'est beaucoup plus grand, 7 ou 8 millions d'habitants, et la Navarre, mais vous voyez la densité, la richesse de ce qui est fait, l'implication à la fois des institutions et de la société civile. Je crois que c'est très intéressant pour nous, et le moins qu'on puisse faire. Bon, il se passe beaucoup de choses en France aussi, on a des représentants ici de pas mal d'initiatives sur le plan mémoriel, mais c'est de continuer. Voilà. Donc à vous... À vous pour des questions, réactions, etc.
Oui, alors je trouvais très intéressant. Alors, je voudrais simplement demander, moi qui suis très intéressé par l'histoire de l'Espagne et qui assiste à plusieurs colloques, que ce soit l'exposition qu'il y a eu sur la Retirada, j'ai l'impression, alors c'est très bien, mais que quand on va dans les conférences, il ne faut pas généraliser, mais il y a une population plus âgée. Est-ce que le travail à faire maintenant est vraiment un travail à faire auprès des jeunes? Parce que j'ai l'impression, sans faire un amalgame naturellement, mais que les générations maintenant sont de moins en moins intéressées par leur histoire. À un moment où notre monde peut changer radicalement, à un moment donné, il faut vraiment se pencher sur le passé pour pas que ressurgissent certaines choses. Est-ce que vous pensez que le plus difficile maintenant est pas justement, et c'est pour ça que c'est intéressant, que le travail de mémoire doit se faire auprès des jeunes générations et accentuer beaucoup vis-à-vis d'eux.
Merci. Je voudrais savoir, comment se fait-il qu'après le putsch de Tejero, vous avez constaté que les exhumations s'étaient un peu arrêtées à cause de l'arrivée de... Comment le valoro usted? Comment l'explique, por favor?
On observe que en Catalogne, vous avez des locaux, enfin vous les avez, vous allez en avoir d'autres, mais en Navarre, est-ce que tout ce que vous avez montré, c'est essentiellement numérisé, c'est sur la toile, enfin, il n'y a pas de locaux, vous n'avez pas de bureaux, et juste, j'ai constaté aussi sur la carte que rien n'apparaissait au niveau de la Rioja.
Navarra tiene una sede física en la calle Arrieta número 12, y al igual que En Pamplona. Entonces, al igual que el Memorial Democratic, el año que viene nos trasladamos a la calle Navarrería, que es al centro de Pamplona. Calle Navarrería, en un palacio del siglo XVIII, merveilleux. Nos trasladamos el año que viene y ahí es donde vamos a trabajar.
Donc pour répondre à la dame, oui, nous avons un siège physique qui se trouve actuellement à la rue Arrieta et numéro 12 de Pamplune, mais comme nos collègues catalans, nous allons déménager et l'année prochaine pour nous trouver dans la rue
Navarrería.
Et dans un palais magnifique du XVIIIe siècle.
Le chemin de Saint-Jacques. Bueno, Tejero, 1981, cuando hablas con Josefina Campos, que es una mujer que impulsó todo el proceso de exhumaciones tempranas en Navarra, ella te transmite el miedo que tuvieron en 1981. Estaban recuperando los cuerpos de los republicanos. Los estaban recuperando sin ayuda del Estado. Sin ayuda de los partidos políticos. Solo las familias. Por lo tanto, el miedo se apoderó de ellos. Hubo gente en el año 81 que se escapó. Y por lo tanto, todo aquello que había sido la búsqueda de los desaparecidos se paralizó. ¿Tuvo un efecto directo? No lo sé, no lo puedo asegurar, pero sí que coincidió y en Navarra se paralizó todo a partir de 1980.
Donc pour répondre à la question du putsch de Tejero en 81, il faut se remettre dans les contextes. Si on parle avec Josefina Campos, qui est l'une des personnes qui allait plus aider à lancer les exhumations précoces dont nous avons parlé, ce qu'elle nous transmet, c'est la sensation des peurs, des terreurs, parce que les familles, sans aucune aide, étaient en train de récupérer les corps des républicains, toutes seules, sans l'aide de l'État, ni des partis politiques, ni rien. Donc, est-ce qu'il y a un lien direct entre les putschs et la paralysation des exhumations? Rien d'officiel, mais dans tous les cas, dans cette époque-là, c'était le règne de la peur.
Y la pregunta de los jóvenes, Jordi. Yo, como profesor que soy, creo que el futuro está en manos de los jóvenes. Entonces, los jóvenes tienen que conocer qué pasó. Y una vez que conocen lo que pasó, podrán ir construyendo a partir de una memoria crítica pues una sociedad diferente, más respetuosa con los derechos humanos, más ética, más igualitaria, más equitativa, es decir, mejor, vamos a decirlo de forma simple, una sociedad mejor que la que han heredado de sus padres y madres, de sus abuelos y sobre todo de sus bisabuelos. Y sobre todo tienen que conocer que la dictadura franquista, 40 años de dictadura, fue una época de represión y de privación de libertades que evidentemente no se puede repetir. Y la única manera de no repetirlo es que no se produzca de nuevo. Y para ello tendrán que trabajar y trabajarse a sí mismos y a sí mismas.
Bueno, voy a decirlo en castellano para ser más rápido. Respecto a los jóvenes, ya lo he dicho antes cuando he acabado mi intervención, que también es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Y como dice pues Josemi, claro, nosotros desde el Memorial Democratic, desde el Museo Memorial del Exilio, desde los espacios de la Batalla del Ebro, tenemos un servicio, podríamos decir, servicios educativos que promovemos visitas, rutas, itinerarios. Después trabajamos conjuntamente con el Departamento de Educación, con grupos de profesores especializados en temas como el exilio, la deportación, la represión franquista. Y claro, lo que pretendemos es justamente llegar a los jóvenes de alguna manera. Somos conscientes que no seguramente si va una clase, asiste una clase de 40 jóvenes al Museo Memorial del Exilio, seguramente no vamos a tener un efecto, digamos, en todos ellos, pero sí que siempre habrá alguno de ellos que saldrá de allí de alguna manera cambiado o que le habrá influido. Y creo que es muy importante, como decía Josemi, porque actualmente también, bueno, en Francia, en toda Europa, pues están surgiendo ideologías cada vez más extremistas, sobre todo populismos de derechas, que propugnan el odio hacia el otro, antifeministas, homófobos, xenófobos, y creo que entre los jóvenes vemos, jóvenes de secundaria, que tienen una cierta fascinación, por ejemplo, por partidos políticos como Vox en España, ¿no? Dice, no, porque Vox, el otro día mi hijo me decía que un amigo suyo decía, no, es que Vox está bien porque al menos hará algo. Bueno, por eso quiere decir que de alguna manera hay una desafección hacia la política en general por parte de los jóvenes, ¿no? Y eso es una preocupación y seguramente tenemos algo que decir las instituciones que nos dedicamos a promover políticas públicas de memoria democrática.
Alors, donc, pour résumer un peu, José Miguel, il dit que lui, en tant que professeur, il est bien conscient que le futur appartient aux jeunes et que pour construire une société plus juste, plus équitable, avec des droits humains plus renforcés, il faut savoir d'où on part, ce qui a été fait par le passé. Donc, effectivement, c'est un travail qu'il y a à faire et qu'ils font. C'est le travail des transmissions pour que les jeunes puissent construire la société qui leur appartiendra. Du côté de la Catalogne, Jordi, il dit qu'effectivement, cette transmission intergénérationnelle est un défi clé, est un défi majeur. Ils sont des services qui travaillent avec l'Institut travaille avec les services d'éducation concernés qui vont coordonner toutes ces politiques éducatives. Et on peut observer en Espagne, mais aussi en France et partout en Europe, une fascination, oui, par certaines tendances politiques extrémistes, on va dire. En Espagne, on a le parti Vox, que vous devez connaître des extrêmes droites. Et on voit que certains jeunes espagnols, ils peuvent dire, bon, au moins, si Vox arrive au pouvoir, au moins, ils feront quelque chose. Donc on voit qu'il y a une perte de références, peut-être. Et donc sans doute, dans ces contextes-là, la transmission est l'un des défis clés.
Merci beaucoup. Pour compléter sur cette question et fermer la séance, j'en suis désolé, mais on a déjà largement dépassé. Alors c'est de notre faute. Nous avions au départ, dans notre dispositif institutionnel, l'Aragon, la communauté autonome d'Aragon, je m'étais réuni avec la conseillère du gouvernement d'Aragon aux questions de mémoire, qui était tout à fait enthousiaste pour nous aider, l'expo, le congrès, etc. Et malheureusement, les élections qui ont eu lieu l'année dernière ont amené au pouvoir en Aragon une majorité de droite et d'extrême droite, dont un des premiers gestes a été de produire une proposition de loi de mémoire qui revient complètement sur ce qui a été fait. Pour compléter sur cette question-là, je crois que sur la question des jeunes, ce qui importe, c'est le volontarisme aussi. C'est-à-dire on peut avoir le pessimisme de l'observation, je ne sais plus quelle était la formule exactement, mais l'optimisme de la volonté. Nous avons parce que pour s'appuyer sur ce que font les deux institutions avec lesquelles nous travaillons, nous avons prévu une journée de travail, alors que ce n'est pas une journée publique, avec l'inspection académique de notre région, donc des inspecteurs, des inspectrices, des enseignants du secondaire, des enseignantes, pour travailler sur comment travailler avec eux, et faire tout simplement un échange d'expériences. entre ce qu'ils ont fait de leur côté et ce qu'on fait en France ici. Et on fait beaucoup de choses. Bon, le musée est une institution de transmission et de médiation qui, à ce titre, évidemment, va être au cœur de cet échange. Mais au-delà, moi, je me rappelle d'une conférence, d'un projet pédagogique à Montauban l'année dernière, sur les questions de racisme, fascisme, néolibéralisme, qui a amené 400 lycéens au siège du conseil départemental du Tarn-et-Garonne, et 400 lycéens très enthousiastes. Vraiment, ils avaient travaillé avec leurs enseignants d'histoire, géographie et de philosophie, et la séance où nous étions deux historiens à interagir avec eux avait été une séance très enthousiasmante pour eux et pour nous. Donc je crois qu'il y a la matière, il y a beaucoup de choses, et nous tenons compte de cela, puisque, et c'est un dernier élément d'information, une des formes de contribution de nos partenaires institutionnels, et dans ce cas-là précisément le Mémorial démocratique de Catalogne, c'est de financer la production de vidéos par des vidéastes très importants en France dans la transmission de l'histoire, qui vont circuler sur Instagram, qui vont être produits. Bon, c'est des vidéastes qui ont des centaines de milliers de followers sur Internet. Et donc qui vont apparaître sur les téléphones de vos petits-enfants ou de vos enfants. Vous savez, ils sont toujours dessus à scroller, comme ils disent, sur Instagram. Mais ils vont voir apparaître l'expo Anatomie du franquisme et des contenus produits par des gens qui sont son pseudo c'est Manon Bril, elle a 700 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, donc c'est pas n'importe quoi. Elle est docteur en histoire du laboratoire Framespa, donc c'est une fille sérieuse et qui sait faire son travail. Et donc voilà, on a aussi ce dispositif là parce qu'il est super important, et je pense qu'on va continuer à avancer dans ce sens. Pour ce qui vous concerne, vous qui scrollez moins sur Instagram, je vous invite à en sortant de la salle à apprendre, et comme l'a dit Marie, on n'en a pas un par personne, mais peut-être un par famille, le journal en 6 langues de l'expo, où vous trouvez les textes des panneaux principaux, le programme des rencontres, et puis là-haut, à la boutique, vous avez le numéro hors série de l'histoire que nous avons coordonné. Merci beaucoup. Au revoir.
Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.